Et on joint Isabelle Falardeau qui a été intéressée par un article. En fait, c'est un témoignage ou une opinion qui a été publiée le 26 mars à propos des cuisines collectives.
Oui, c'est ça. C'est Julien Baranger qui est coordonnateur général du regroupement des cuisines collectives du Québec. Et donc, jeudi le 26 mars, il signait cette lettre « Mettons les cuisines collectives au menu du gouvernement ». Moi, je l'ai trouvé dans le journal de Montréal. Et donc, il nous dit que personne n'a besoin d'être un grand chef pour aimer cuisiner. Hein. Il suffit de vouloir mijoter un bon petit plat pour notre famille, nos proches ou nous-mêmes. Un bon petit plat comme, je ne sais pas, mettons, des grands-pères dans le sirop.
Par exemple. Mettons. Hein?
Bon, c'est pas ça qu'il dit dans l'article, mais c'est ma petite contribution personnelle. Mais cet acte vital du quotidien devient éminemment économique, social et politique. Dans ce contexte actuel où on vit, donc l'inflation, les prix du panier d'épicerie et l'insécurité alimentaire ne cessent de gagner du terrain. Et dans l'espace public, trop souvent, l'enjeu de la précarité alimentaire est lié aux demandes croissantes dans les banques alimentaires. Et bien que ce soit des services essentiels et qui doivent être soutenus encore davantage dans le contexte actuel, il faut savoir qu'il y a seulement 25 % des gens qui ont faim. Seulement 25 % des gens qui ont faim se tournent vers ce type d'aide d'urgence. Donc, il y a des personnes qui ne réussissent pas à bien manger, mais qui ont quand même pas soit le réflexe ou le courage. Parfois, il y a plusieurs choses qui nous empêchent d'aller vers les banques alimentaires. Et il y a plus en plus de personnes qui se tournent aussi vers les cuisines collectives pour reprendre du pouvoir sur leur alimentation. Avoir faim est un enjeu, oser se rendre dans une banque alimentaire en est un autre, comme je disais. Et aujourd'hui, donc le jour où l'article a été, la lettre a été publiée, c'était la Journée nationale des cuisines collectives.
Donc le 26 mars.
Exactement, le 26 mars. Donc l'auteur nous dit qu'on comptait plus de, ou on compte encore parce que ça fait pas si longtemps que ça, 1300 groupes actifs à travers la province qui prépare près d'un million de repas par année, donc des groupes ou des cuisines collectives. Et dans chaque groupe, des personnes mettent en commun leur temps, leur argent, mais aussi leurs compétences pour préparer des plats sains, économiques et appétissants que ces personnes-là vont pouvoir apporter chez elles pour nourrir leur famille. Mais il y a 60 % des organismes qui ne peuvent pas intégrer toutes les personnes qui souhaitent participer à un groupe de cuisine collective, donc qui n'ont pas assez de place pour recevoir tout le monde qui serait intéressé en raison d'un sous-financement de plus de 10 millions de dollars à l'échelle nationale. Et ce qu'il nous dit, c'est que refuser des personnes dans ces groupes, c'est déchirant pour eux. Contrairement à une croyance populaire erronée, mais persistante, les cuisines collectives ne s'adressent pas uniquement aux personnes en situation de vulnérabilité financière. En fait, elles s'adressent à toute personne qui veut cuisiner pour améliorer sa qualité de vie et celle de sa famille. Tout en ayant la possibilité de s'impliquer, que ce soit individuellement ou collectivement, dans sa communauté. Donc, ça peut être pour créer des liens, ça peut être parce qu'on n'est pas super bon pour cuisiner, mais on sait que c'est important de le plus possible cuisiner soi-même pour sa santé. Bref, il y a plusieurs raisons qui font qu'on se tourne vers les cuisines collectives. D'ailleurs, les groupes remarquent qu'il y a une plus grande variété de profils chez les nouvelles personnes participantes, comme des hommes, des aînés, des étudiants, des travailleurs, des nouveaux arrivants, qui sont tous en quête d'un réseau d'entraide et d'intégration. Ça existe depuis plus de 36 ans, donc le mouvement des cuisines collectives, et elles contribuent au développement socio-économique. Elles augmentent le pouvoir d'achat des participants, même si ce n'est pas la raison première. Il y a toujours un aspect financier. On économise quand on cuisine en groupe. Et ça améliore progressivement leur santé physique, on le dit, mais aussi leur santé mentale et sociale. Ça peut être pour échanger des astuces, découvrir des nouveaux ingrédients, décoder les étiquettes parfois, apprendre à mieux gérer son budget, évidemment, ou encore dresser une liste d'épiceries. Les cuisines collectives sont des véritables leviers de dignité, d'autonomie et de solidarité. Dans un groupe de cuisine collective, on ne va pas juste cuisiner, on socialise et on lutte également contre l'isolement. Donc, le regroupement des cuisines collectives du Québec est fier d'organiser en avril le tout premier sommet national sur le droit à l'alimentation. Donc, ça, c'est pas un poisson d'avril, là. C'est vraiment quelque chose qui va se tenir ce mois-ci. Ça vise à proposer des solutions pérennes, donc durables et concrètes, et en ayant notamment l'objectif de pouvoir déposer une loi cadre sur le droit à l'alimentation, donc pour que ça soit vraiment encadré par la loi. pour une plus grande sécurité. Donc, on arrive avec la pérennité là, de la chose. Ça fait des décennies que les cuisines collectives offrent une réponse durable et humaine à des enjeux alimentaires de plus en plus criants. La pérennité de leurs actions est cependant compromise par l'absence de reconnaissance et de financement par le gouvernement. Il est nécessaire que ces organismes soient officialisés comme un investissement préventif en santé publique et obtiennent un financement adéquat pour ne laisser personne sans soutien. L'auteur conclut en disant « Bien plus qu'un service communautaire, les groupes de cuisine collective représentent un moyen que les gens se sont donné pour aller au-delà de la charité et reprendre du pouvoir sur leur alimentation. En cette journée nationale des cuisines collectives, mettons les bonnes valeurs au menu et assurons-nous d'offrir une réponse durable et humaine aux enjeux alimentaires vécus par des milliers de personnes au Québec. » Donc, moi, je suis vraiment d'accord avec tout ce qui est dit dans cet article-là.
Et c'est un article qui s'inscrit, je pense, dans tout ce qui est dans l'actualité concernant les organismes communautaires qui sont à bout de souffle, le mouvement communautaire à bout, là, qui dénonce le manque de financement?
Tout à fait. J'ai vu plusieurs articles à ce sujet-là. Donc, la semaine dernière, c'était lundi, je pense, il y a des organismes communautaires qui ont manifesté. Parce qu'ils sont vraiment à bout, comme vous dites, c'est vraiment le titre de leur campagne. Puis il y a plusieurs cuisines collectives qui ont participé à ce mouvement-là. Moi, je ne sais pas si je pense que je vous en ai déjà parlé. À chaque année, à ma fête, mon papa m'offre en cadeau un panier de légumes.
Ah, c'est un beau cadeau?
Toutes les deux semaines, je reçois, c'est un organisme communautaire, c'est la cuisine collective à Schlager-Maisonneuve. Il y a quelques années, a démarré un jardin, un potager urbain. Et donc, ils vendent leurs légumes. Sous forme de panier, donc estival, c'est ce qui fait qu'à chaque semaine, on a ce qui est prêt cette semaine-là. Donc, on ne sait jamais ce qu'on va avoir, mais c'est un organisme qui est vraiment super important dans mon quartier, la cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve. Ils ont maintenant aussi une épicerie solidaire, donc où on paye selon notre revenu. Ces paniers de légumes-là. Pour chaque panier qu'on achète pour l'été, il y a un panier qui est donné à une famille qui ne peut pas se le payer.
Donc, service essentiel.
Ça va au-delà de juste la cuisine collective. Quand il y a un organisme comme ça qui se crée, ça rayonne de toutes sortes de façons pour aider le quartier.
Oui, et je voulais ajouter à propos du communautaire à bout, là, c'est vraiment un mouvement de grève historique au Québec. Ça a commencé le 23 mars et ça se poursuit jusqu'au 2 avril. Et ce mouvement mobilise plus de 1800 organismes pour dénoncer le sous-financement chronique. Et si on n'avait pas le communautaire, on ferait dur. Isabelle, donnez-nous un peu de courage et de sucre aussi avec une recette qui vient de Sœur Angèle.
Oui, c'est ça. C'est une recette légèrement différente, mais je suis certaine, je ne l'ai pas essayée, là, je vous le dis, c'est paru dans mon fil cette semaine. Donc, les recettes de Sœur Angèle, je n'ai jamais goûté une recette de Sœur Angèle qui n'était pas bonne. Et c'est toujours facile aussi à faire. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà mangé, Hélène, des grands-pères dans le sirop?
Je pense
peut-être
pas.
Dans une cabane à sucre,
ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des beignets dans le sirop?
C'est des boules de pâte qu'on fait cuire dans le sirop. En fait, moi, j'avais goûté beaucoup plus souvent à des grands-pères dans le bleuet. Des grands-pères au bleuet, plutôt. C'est un peu le même principe. C'est une recette traditionnelle de ma famille. Puis, parce qu'on vient de l'Abitibi, puis les bleuets de l'Abitibi, n'en déplaise aux gens du Lac-Saint-Jean. C'est les meilleurs bleuets.
Ce sont les meilleurs, oui. Parce que moi, j'ai habité 5 ans en Abitibi et j'ai participé à plusieurs cueillettes de bleuets. C'est longtemps parce qu'ils sont petits, mais ils sont délicieux.
Ils sont vraiment, c'est ça, c'est effectivement. Et donc, la recette de Sœur Angèle, vous allez voir, là, c'est quand même vraiment facile. Puis, vous allez comprendre tout de suite c'est quoi le concept des grands-pères. Donc, c'est une tasse de farine.
Une tasse de farine.
Une cuillère à thé ou 5 ml de poudre à pâte. Mm-hmm. Une demi-cuillère à thé de sel. Vous pouvez aussi aller avec une grosse pincée. Une demi-tasse de crème sûre. Et c'est là qu'elle se démarque des recettes traditionnelles. Deux œufs. Donc, ça, c'est pour la pâte.
Okay.
Généralement, les recettes traditionnelles, c'est du lait, mais la crème sûre, je suis sûre que ça apporte un petit quelque chose d'intéressant, aussi dans la texture,
de
puis
moelleux.
Dans la facilité aussi de mélanger, parce que dans les recettes, là, comme les recettes de Ricardo, mettons, du site là, de l'érable du Québec, ils vont mettre du lait et du beurre, mais je trouve que la crème sûre, ça va être probablement plus facile à préparer. Et donc, pour la sauce, entre guillemets, on a une tasse et demie de sirop d'érable.
Oh, de vrai sirop d'érable.
Oui. Donc, même quantité de sirop d'érable et d'eau.
OK. Donc, alors, une tasse et demie de vrai, de sirop,
vrai
d'érable,
sirop d'érable
et non de sirop
voilà.
de poteau. Et puis, la même quantité en eau, c'est ça que vous dites?
Oui, une tasse et demie d'eau.
C'est tout?
La même chose. C'est tout. Donc, on commence par préparer la pâte. Donc, dans un bol, on tamise la farine avec la poudre à pâte et le sel. On ajoute la crème sure et les œufs et on mélange jusqu'à une consistance homogène. Et à côté de ça, dans une casserole à fond épais, parce qu'on va faire bouillir le sirop d'érable, on met le sirop d'érable et l'eau et on les mène à ébullition, pardon. Et à l'aide d'une grosse cuillère, on fait tomber des boules du mélange dans le sirop bouillant.
Oh.
Et c'est pas plus compliqué que ça. On couvre, on laisse mijoter de 10 à 15 minutes ou jusqu'à ce que les grands-pères remontent à la surface et on sert le tout avec le sirop chaud de la cuisson. C'est délicieux. Moi, personnellement, je trouve que c'est encore meilleur avec des bleuets, mais peut-être parce que c'est ma grand-mère qui les préparait, puis mon père le fait encore.
Oui, c'est sentimental tout ça, là. Mais ça doit être bon également.
Ma grand-mère le faisait avec les bleuets, justement, mais on n'a jamais appelé ça les grands-pères.
Non? C'était des grands-mères dans le bleuet?
Non, on appelait ça d'un pudding, je ne sais pas trop, je ne me souviens pas.
On a les grands-pères au sirop d'érable, on peut avoir les grands-mères au bleuet.
Ah oui, ben oui, pourquoi pas.
Ricardo appelle ça des dumplings au bleuet.
Ah oui, OK.
La version là, des grands-pères au bleuet. Mais
c'est moins attirant.
C'est une recette traditionnelle québécoise, mais aussi acadienne. Apparemment qu'on peut aussi appeler ça des pépères, plutôt que des grands-pères, par exemple, en Beauce.
Des pépères?
Ouais, des pépères au bleuet.
Ah, des pépères!
Au sirop, pardon, okay. Des pépères dans le sirop. Et apparemment qu'on appelle ça des grands-pères dans le sirop, soit parce que les grands-pères qui avait plus dedans pouvait facilement les manger. Et parce que les boulettes un peu ridées, fripées, rappelaient les traits d'un visage âgé. Ou la deuxième, moi, c'est celle qui me plaît, c'est que c'était préparé en partie par les grands-pères parce qu'on leur confiait la tâche facile de brasser le sirop d'érable dans le chiffon.
Oui. Bon, ben on opte pour cette définition-là, cette explication-là, parce que les grands-pères pas dedans, puis ridés, là. Mais ce sont des réalités, mais c'est moins appétissant. Merci beaucoup, Isabelle. Les grands-pères au sirop d'érable de Sœur Angèle, ça nous donne le goût d'en faire et surtout d'en manger. Alors, vous restez avec nous, Isabelle?
Oui, bien sûr.
Oui, on va se rappeler des souvenirs avec Serge qui va nous parler des Jeux olympiques de 1976. 50 ans déjà, on va commencer avec une chanson de René Simard. J'en dis pas plus pour l'instant.
Oui.